de n'avoir aucun doute dans notre tête que Dieu est bon. Et quand on élève des mains vers lui, amen, on sait ce qu'on fait, amen, au moins en partie, amen. Un jour, lorsqu'on sera de l'autre côté, je pense qu'on va se promener comme ça tout le temps, amen, alléluia. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Eh bien, on continue de parler sur la guérison tous les jeudis matins, c'est toujours dans cette direction-là qu'on s'en va, amen, et on amène des raisons, des preuves de la parole de Dieu qui nous démontre que c'est la volonté de Dieu qu'on soit en santé, qu'on marche dans la guérison sur la terre, amen, et souvent des gens, des fois, nous disent, je ne sais pas si c'est sa volonté. Eh bien, c'est justement ça qu'on explique le jeudi matin, qu'on va ensemble dans l'école de la guérison, qu'on va ensemble étudier ce que la parole de Dieu dit. Je pense que Dieu t'a préviré notre église en école. Amen. Alléluia. On a eu un bon temps avec Pasteur Donato. Amen. Alléluia. Mais que l'école de la guérison, amen, et qu'on apprend ce que la parole de Dieu dit. Combien de vous, vous êtes contents de pas fonctionner toujours dans l'ignorance, puis d'après ce qu'un dit, puis d'après ce que l'autre dit, mais qu'on a notre fondation, amen. Plusieurs personnes disent, la parole de Dieu, oui, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Il y en a même qui nous disaient, on prend pas tout ce qui est écrit dans la parole. Ben, j'ai dit, qu'est-ce qu'on prend puis qu'est-ce qu'on prend pas d'abord? Amen. Non. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Toutes les promesses du début à la fin. Amen. Et qu'est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Si on pourrait faire une petite comparaison, pourquoi on prend toujours la parole de Dieu? Eh bien, la parole de Dieu, pour moi et pour nous tous, ça devrait être la règle, la mesure avec laquelle on peut savoir si c'est vrai ou pas vrai. Vous savez, si je prends une règle à mesurer, et puis d'un pied, une règle, et puis j'ai une feuille ici, ou un morceau de feuille ici, puis là, je dis aux gens, quelle grandeur, les gens vont dire, c'est sûrement au moins 6 pouces, 8 pouces, 7 pouces et demi, 7 pouces 3 quarts, 8 pouces et 1 quart. Personne ne le sait vraiment, mais quand on veut savoir vraiment la grandeur, je sors la règle et je mesure, et puis là, je suis certaine d'avoir la bonne mesure. Bien, la parole de Dieu, c'est la même chose. Pourquoi on démontre dans la parole de Dieu quelles sont les preuves ou les raisons qui nous démontrent? Pourquoi on va dans la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est la règle. Amen. Avec la parole de Dieu, on peut pas se tromper. La parole de Dieu, elle est vraie du début à la fin. Et puis, la parole de Dieu nous dit la vérité. C'est pour ça que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Fait que c'est la mesure avec laquelle je me sers pour savoir si c'est vrai ce que j'entends ou si c'est pas vrai. C'est pour ça que vous aussi, d'ailleurs, la parole de Dieu dit « Vérifiez si tout ce qui vous est dit est vrai. » Amen. Plusieurs personnes, des fois, arrivaient avec des choses et puis ça sonnait faux. J'allais voir dans la règle, dans la parole de Dieu, puis je mesurais si qu'est-ce qu'il disait était vrai ou pas vrai. Amen. Alors, on a vu la semaine dernière, ce que je répéterai pas toujours depuis le début, mais on a vu la semaine dernière que l'origine de la maladie vient du péché, que dans Romains 5:12 la parole de Dieu nous dit que le péché a amené la mort. Amen. Par le péché, la mort a suivi. Puis naturellement, ben c'est la mort spirituelle en premier qui entraîne la mort physique après ça. Amen. Et voyez-vous, même on pourrait méditer là-dessus et penser vraiment que quand une personne est morte spirituellement, elle n'a aucun espoir de vie, elle est morte spirituellement, eh bien, c'est normal que la mort physique vient après ça. Mais quand on a Jésus qui est la vie et puis qu'on donne la vie à notre esprit, bien, c'est officiel que le physique s'ensuit aussi. Amen. Combien de vous avez été libérés de toutes sortes de choses qui entraînent la mort? Moi-même, j'ai été libérée de la peur, puis la peur entraîne la mort. Amen. Et puis, lorsque j'étais dans la noirceur, lorsque mon esprit était morte, eh bien, j'entraînais physiquement la mort dans mon corps. Amen. J'étais de plus en plus dépendante de médicaments, de boissons, de toutes sortes de choses pour me faire évader. Eh bien, quand la vie est venue, bien, c'est officiel que ça l'a donné la vie. Quand mon esprit a pris vie, eh bien, mon corps aussi a pris vie. Amen. Alléluia. Alors, vraiment, on a vu que toute la race humaine, elle avait été infectée de la mort par le péché qui avait rentré, et on a vu que ce qui devait être pris soin, c'était le péché. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ est venu et il a été le Rédempteur, celui qui a pris soin du péché et de toutes les conséquences de ce péché-là. Et on avait terminé avec 1 Pierre 2. On va retourner là ce matin. 1 Pierre 2. Puis on va aller voir une autre raison qui nous démontre que c'est la volonté de Dieu qu'on soit en santé aujourd'hui. On va relire le dernier passage, 1 Pierre 2, puis je vais commencer à lire au verset 22. Ça prenait un agneau de Dieu parfait, puis Jésus l'est devenu. Amen. Et ça dit, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude. Lui qui injurié ne rendait point d'injure et maltraité il ne faisait point de menace, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. » Et on a vu la semaine passée que nous, on obtient la guérison juridiquement parce que le juge en a déclaré ainsi. Amen. Parce que, pourquoi? Parce que ça dit au verset 24, « Parce qu'il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. » Voyez-vous, ce qui est juste, c'est qu'est-ce que Dieu avait fait. Amen. Dieu avait créé toute chose bonne, avait placé l'homme à l'intérieur de sa création originale. Dieu est un Dieu juste. La seule chose qu'il ne peut pas accepter, c'est le péché. Mais Jésus l'a porté, tous ces péchés-là, sur la croix, afin que mort au péché, parce que le péché entraîne la mort, il est mort sur la croix, il a payé le prix, descendu aux enfers, afin que mort au péché, nous, à cause de lui, on puisse vivre en justice. Amen. Et il a porté aussi les conséquences du péché. Et ça continue, ça dit, « Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Alors, sur la croix, Jésus a porté les conséquences aussi du péché qui était la maladie, la mort. Et la parole de Dieu dit, « À cause de cela, par tout ce qu'il a fait, on a été guéri. » Alors, Dieu a procuré le moyen pour que la guérison puisse venir. Le péché entraînait la mort, la maladie, et ce que Jésus a fait, le Rédempteur, a entraîné la vie et la guérison. Amen. Et ça dit, après ça, c'est là qu'on rentre dans notre sujet ce matin, au verset 25, « Car vous étiez des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. » Une autre des raisons qui nous démontre que c'est la volonté de Dieu qu'on marche en santé sur la terre, c'est que on était des brebis errantes, mais on est retourné vers le berger et le gardien de nos âmes. La raison, c'est qu'on a un bon berger qui prend soin de nous. Pourquoi je ne dois pas être malade? Parce que j'ai un berger, Amen, qui prend soin de nous. Alors, vraiment, la parole de Dieu dit qu'on était avant ça des brebis errantes. Amen. Voyez-vous, si je parle d'un chien, ça va japper, puis ça va mordre, puis ça va se défendre. Amen. Si je parle d'un chat, le chat va sauter, puis avec ses griffes, il va se défendre. Même une petite souris, tu vas courir après, puis elle va passer dans des petits trous, puis elle va réussir à échapper à bien des choses. Mais quand je parle d'une brebis, c'est vraiment sans défense. Une petite brebis qui est là, puis même s'il est bien chargé de laine, puis elle tombe sur le côté, eh bien, elle est prise, elle, là. Elle peut même pas se relever, parce que si tu te pattes. Une brebis, c'est très, très, très fragile. Amen. Et puis, une brebis, c'est sans défense. C'est ça graffine pas, ça mord pas. Ben, ça peut, c'est peut-être ça mord un peu, mais pas comme un chien avec des crocs. Vous comprenez ce que je veux dire? Une brebis, c'est vraiment sans défense. Et la parole de Dieu dit que par qu'est-ce que Jésus a fait, ce qu'il a procuré, ce qui ça nous a procuré, c'est que Dieu nous compare à des brebis. Il dit vraiment, vous êtes sans défense si vous n'avez pas un berger qui prend soin de vous. Et Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a justement envoyé Jésus qui est devenu notre berger. Amen. Et puis, Dieu, ça me prouve que Dieu veut prendre soin de moi. Dieu me regardait puis disait, vous étiez comme des brebis errantes. Puis on s'en allait, puis vous savez, une brebis qui sort du groupe de troupeau, et du troupeau, puis qui s'en va errer, la petite brebis, elle va s'enfarger, elle est prise, puis la seule chose qu'elle fait, c'est se lamenter. Bé, bé, bé. C'est à peu près la seule chose qu'elle sait faire. Amen. Puis Dieu savait ce qu'on était. Amen. Il dit, de eux autres mêmes, ils ne peuvent pas rien faire. Ils sont comme des petites brebis errantes. Tout ce qu'ils pourront faire, c'est se lamenter. Je sais pas pourquoi ça m'arrive. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Je sais pas. C'est comme ça, c'est rien que pour moi. C'est la seule chose qu'on sait faire, c'est qu'on comprend pas. On est comme des brebis errantes. Mais quand Jésus est venu, ça dit qu'on est retourné vers le berger, puis le gardien de nos âmes. Amen. Alors, Dieu a toujours tout fait en son pouvoir pour nous repositionner sous sa protection, sous son amour, sous la couverture de quelqu'un qui peut prendre soin de nous. Si on voit un troupeau de brebis, ça prend absolument un berger. Amen. Et une des raisons que je peux voir dans la parole de Dieu, que Dieu me veut bien, il me veut en santé, il me veut protéger, il me veut pris soin, il me veut bien engraissé, plein de laine, bien portante, il va me procurer un berger et c'est ce qu'il a fait. Amen. Dieu nous regardait puis nous voyait comme des brebis errantes, mais maintenant on est retourné vers le berger et le gardien de nos âmes. Alors Dieu savait qu'on avait besoin d'un berger et savez-vous quoi? Jésus le savait aussi. Alors on va aller à Jean 10. Jean 10 et je vais lire le verset 10 et 11. Voyez-vous dans Jean 10, Jésus lui-même parle et dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger, puis détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis, il sait qui on est. On est des brebis. Voyez-vous, toute personne dans le monde est à la merci. Ils sont vraiment comme des brebis errantes. Ils vont ici et là pour essayer de trouver du secours, de l'aide. Peut-être que cette thérapie-là va m'aider. Peut-être que, oh, peut-être cette personne-là, si elle me donne ces traitements-là, ça va aller. Oh, peut-être qu'elle, elle est allée là-bas puis ça l'a bien été. On était comme des brebis errantes. Jésus met les choses au clair et dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Puis il continue au verset 11, puis il dit, je suis le bon berger. Amen. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous savez, lorsqu'on regarde dans un exemple dans l'Ancien Testament, parce que la parole de Dieu nous dit que dans l'Ancien Testament, tous ces hommes et ces femmes de Dieu-là qui ont marché dans l'Ancien Testament sont des exemples de Christ. Parce que Jésus-Christ a dit lui-même, il parlait un jour à des grands docteurs de la loi, puis il dit, vous sondez les Écritures. Puis dans ce temps-là, c'était les parchemins de l'Ancien Testament. Il dit, vous sondez les Écritures pour trouver la vie éternelle. Puis il dit, pourtant, toutes les Écritures parlent de moi. Amen. Et puis il dit, vous ne le reconnaissez même pas. Puis vraiment, quand on regarde dans les histoires de l'Ancien Testament, on peut voir Jésus dans toutes les histoires. Si on parle de David, du roi David. Mais avant d'être roi, il était berger. Puis il prenait soin de ses brebis. Puis il était un bon berger. Parce que lorsqu'il s'est présenté devant le roi Saül, il dit, « Quand il y avait un ours qui venait, il dit, je courais après, puis j'arrachais de sa gueule la brebis, et puis je ramenais la brebis. Puis s'il se dressait contre moi, la force de Dieu descendait sur moi, et je prenais soin des brebis. » Il démontre combien il prenait soin des brebis. Amen. Et c'est toujours des prototypes ou des exemples du bon berger. Mais Jésus, c'est ce qu'il nous dit. Il dit, « Je suis le bon berger. » Puis il dit, « Le bon berger, il est prêt à donner sa vie pour ses brebis. » Amen. Alors, il donne, en parlant comme ça, on peut voir l'exemple lorsque David courait après l'ours ou après le lion, ou peu importe, pour donner, il était prêt à donner sa vie pour la petite brebis qui est là. Alors, c'est ce que la parole de Dieu nous parle à propos des brebis. Et pourquoi Jésus disait, je suis le bon berger, parce qu'il reconnaissait la mission dans laquelle il avait été appelé. Et dans Matthieu 9, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 9, verset 35, voyez-vous, Jésus savait ce qu'il avait à faire durant le temps qu'il marchait sur la terre. Puis quand est venu le temps de donner sa vie pour payer le prix de toute la terre entière, là, il l'a fait. Mais durant le temps qu'il marchait sur la terre, il dit ceci au verset 35, il dit, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages. » Pas juste une ici, une là, puis on laisse les autres de côté, non. « Toutes les villes et les villages. » Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Il regardait la foule, puis il disait, mon Dieu, qu'ils sont abattus. Il avait la compassion, il regardait les gens qui venaient à lui, il traînait des fardeaux sur eux, traînait de la maladie depuis des années, puis il regardait la foule languissante et abattue, puis il dit, ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il savait sa mission. Il savait sa mission. Parce que plus tard, il a dit, je suis le bon berger. Puis les brebis ne seront plus languissantes et abattues. Parce que le berger va donner sa vie pour ses brebis. Amen. Oh, merci Seigneur. Puis quand il est allé à la croix, il a donné sa vie pour les brebis. Fait qu'il dit, vous, avant ça, vous étiez des brebis errantes. Mais plus maintenant, si vous connaissez ce que le berger a fait, une brebis qui ne sait pas qu'elle a un berger, qui est seule dans le champ, elle ne sait pas qu'elle peut avoir besoin d'un berger. Elle est languissante et abattue, mais lorsqu'on comprend le plan de Dieu, puis on voit comment Dieu nous a tant aimés, on voit qu'il y a eu un bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Amen. Alléluia. Et pourquoi il l'a donné? Parce qu'il était fatigué de nous voir languissants et abattus. Puis il voulait prendre soin. Voyez-vous, pendant 3 ans et demi, il a fait un ministère sur la terre. Puis il s'est promené dans toutes les villes, puis dans tous les villages. Puis il allait apporter la guérison parce que il enseignait, il prêchait, puis il guérissait tous les malades parce qu'il savait qui il était. Mais à la fin de sa vie, il a dit, maintenant, je vais donner ma vie pour toutes les brebis. Amen. Alléluia. Puis Dieu savait qu'on avait besoin d'un berger. C'est pour ça qu'il nous l'a envoyé. Mais Dieu, vous savez, a vraiment des grands critères pour le berger. Et on va aller à Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Et puis un jour, Dieu parle très sévèrement à des bergers qui n'ont pas fait l'ouvrage d'un berger. Amen. Et même dans cette écriture-là, le mot berger, c'est le mot pasteur aussi. Amen. Et voici au verset 1 ce que Dieu dit. Ça dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau? Là, il parle à des bergers qui n'ont pas fait l'ouvrage d'un berger. Il dit, vous vous êtes rassasiés vous-autres-mêmes, vous vous êtes instruits vous-autres-mêmes, mais vous n'avez même pas instruit le troupeau. Il dit, vous avez mangé la graisse et vous vous êtes vêtus avec de la laine et vous avez tué ce qui était gras et vous n'avez fait point paître les brebis. Autrement dit, vous avez pris tout le meilleur des brebis. Il y en a beaucoup de pasteurs qui sont comme ça, vous savez. Ils vont juste aller chercher le meilleur, puis eux autres, ils marchent sur un piédestal parce qu'ils sont des bergers, ôtez-vous de là. Et puis, ils prennent tout le meilleur des brebis, mais ils ne sont pas capables de paître les brebis, puis d'amener les brebis dans une sécurité continuelle. Il dit, malheur à vous. Il dit au verset 4, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, celles qui étaient perdues. Vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Voyez-vous, c'est pour ça que Jésus a dit, ils sont comme des brebis errantes, parce que les bergers dans le naturel ne faisaient pas ce que Dieu s'attendait qu'un berger doit faire. Vous comprenez? Amen. Il dit, elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs et elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays et nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Et après ça, si on continuerait de lire tout, il dit qu'il va élever le berger. Amen. Mais voyez-vous, on va aller maintenant à 1 Pierre 5. Vous allez comprendre. Voyez-vous, il disait, ce que vous auriez dû faire, c'est vous auriez dû paître les brebis. Vous auriez dû fortifier celles qui étaient faibles. Vous auriez dû guérir celles qui étaient malades. Penser celles qui étaient blessées. Ramener celles qui s'égaraient. Il dit, c'est ça que vous auriez dû faire. Et dans 1 Pierre 5, voyons, j'y arrive. 1 Pierre 5, ça dit au verset 1, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. » Ici, le mot « ancien », c'est le mot « pasteur », le mot « berger ». Quand on va dans le grec, c'est la même chose. « Qui sont parmi vous, moi aussi, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, il dit ceci, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Voyez-vous, ça c'est une des récompenses de l'autre côté qu'on a vu en fin de semaine. Mais voyez-vous, Dieu s'attend. Puis même Pierre parlait, puis il disait que si vous faites l'ouvrage du sous-berger, en attendant le souverain berger, paissez le troupeau de Dieu, prenez-en soin. Dieu s'attend qu'un berger va faire sa job. Amen. Parce que Dieu, quand lui a envoyé le souverain berger, il a fait sa job. Amen. Il a pansé la brebis, il a guéri la brebis malade, il est allé chercher celle qui s'égarait, il prend soin. Amen. Et la raison qui nous démontre que c'est la volonté de Dieu que je sois en santé, c'est qu'il a pris soin de moi en envoyant le bon berger. Le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Amen. Qui a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Qui a payé le prix à la croix, qui a porté les péchés qui entraînaient la mort pour qu'on vive justement. Amen. Alors, parce que j'ai un bon berger, je peux dire, je dois être guéri. Amen. Je dois être pris soin parce que j'ai un bon berger qui s'appelle Jésus. Et les gens devraient rechercher des sous-bergers qui vont paître le troupeau de Dieu de la même façon que le souverain berger. Amen. Hallelujah. C'est pour ça qu'on peut parler n'importe où. Amen. Voyez-vous, dans Nombre 27, ici, c'est Moïse. Moïse qui ne finira pas ce qu'il a commencé. Moïse, c'est lui qui a tout délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, qui les a fait sortir et qui les amenait vers la terre promise. Mais quand est rentré le temps de rentrer dans la terre promise, Moïse, c'est pas lui qui a terminé la job, si on pourrait dire, le mandat que Dieu lui avait donné. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une erreur énorme de ne pas faire confiance à Dieu à un moment donné. Et on va lire ici au verset 12 du chapitre 27, il dit, « L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Parce qu'il avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. » Il dit, « Regarde, c'est ça le pays. Tu vois, c'est ça la récompense. Ça, c'est où je veux les amener. » il voulait quand même qu'ils voient ce que Dieu allait faire. Amen. Il dit, « Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous n'avez point sanctifié à leurs yeux, vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. » Ça, on en parlera une autre fois, là, mais ils n'ont pas fait ce que Dieu leur avait demandé de faire. Et il dit, ce sont les eaux de contestation à Kadesh dans le désert de Tsin. Alors Moïse s'est adressé à Dieu. Voici ce que Moïse a dit. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Voyez-vous, comme je disais tantôt, tout dans l'Ancien Testament va toujours parler de Jésus, mais en même temps, il faisait les choses à la manière de Dieu. Alors, Moïse était celui qui avait conduit le peuple hors d'Égypte et puis qui les amenait vers la terre promise. Il pouvait pas finir sa course, alors il dit, tu peux pas les laisser tout seuls d'abord. Il dit d'abord, tu peux pas les laisser sans un homme qui va rentrer, sortir devant lui, aller, autrement dit, aller dans ta présence et revenir leur parler. Parce que Moïse rentrait dans la présence de Dieu, puis revenait leur parler. Il dit, tu peux pas les laisser comme ça. Et il dit, parce que sans ça, ils vont être comme des brebis qui ont pas de berger. Parce qu'il savait que les brebis ont toujours besoin d'un berger. Dieu nous regarde comme des brebis, puis il dit de elles-mêmes, ils vont toujours être languissantes et abattues, perdues, égarées, vont tout le temps s'en aller à l'aveuglette. Dieu savait qu'on avait besoin d'un berger. Même dans l'Ancien Testament, Moïse, qui faisait la volonté de Dieu sur la terre, savait qu'un troupeau peut pas être laissé sans berger. Alors il a dit, établis donc un homme. Alors l'Éternel lui a parlé au verset 18, et l'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui, et puis tu l'enverras. » Il dit, tu sais bien que j'ai déjà préparé quelqu'un. Je laisserai pas les brebis s'en aller comme ça. Merci Seigneur que Dieu avait déjà préparé que Jésus viendrait, qui était le grand berger des bergers, qui donnerait sa vie, qui ferait sa volonté, amen, et puis qui nous secourrait de tout. Et c'est exactement ce qui est arrivé. On va retourner à Jean 10. Alléluia. À Jean 10. Et puis là, on va lire à partir du verset 1. Tantôt, on avait lu le verset 10 et 11 qui disait que le voleur ne vient que pour égorger, tuer, mais moi, je suis venu afin que les brebis et la vie la vie en abondance. Je suis le bon berger. Mais regardez au verset 1 de Jean 10. Il dit, en vérité, je vous le dis. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Voyez-vous, la porte pour demeurer sur la terre, c'est être né d'une femme. Ça, c'est la porte. Le seul moyen de marcher sur la terre, à la manière de Dieu, c'est d'être né d'une femme. Amen. C'est pour ça que Jésus est né de la Vierge Marie. Mais le diable, quand il est venu, il n'est pas né d'une femme. il s'est introduit dans le jardin. Et celui qui monte par ailleurs, ça c'est un voleur. Amen. On va continuer au verset 2. Mais il dit, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Et il dit, le portier lui ouvre la porte, puis les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent point un étranger, mais elles fuient loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors Jésus a dit au verset 9, il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Voyez-vous, c'est toujours un exemple dans l'Ancien Testament qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. C'est exactement ce que Moïse disait à Dieu. Il dit, tu peux pas laisser le peuple sans un homme pour les conduire. Il dit, ils vont être comme des brebis qui n'ont pas de berger. Tu as besoin de quelqu'un qui va pouvoir rentrer et sortir et conduire les brebis. C'est exactement ce que Jésus est venu faire. Il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Merci Seigneur. Il entrera, puis sortira, puis trouvera du pâturage. Puis là, c'est là qu'il redit, « Le voleur, il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Il veut qu'on vive. Puis pas n'importe quelle vie, et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Puis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pouvez-vous imaginer que je vous parle ce matin du bon berger? Puis je dis, il est majestueux. C'est le roi des rois. C'est le fils de Dieu. C'est le fils du commencement et de la fin. C'est le fils du créateur de l'univers. Je vous parle du berger. Puis là, je vous dis, après-midi, il s'en vient sur la rue King avec tout son troupeau. Et puis là, vous en allez vous installer sur la rue King. Puis vous avez entendu parler du berger. C'est un bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et puis là, vous le regardez s'en venir, puis vous avez hâte de voir ce majestueux berger qui va marcher avec son bâton, qui s'en vient comme un roi, parce qu'il est aussi le roi des rois. Et puis je vous ai pompé avec comment il est grand. Puis là, vous le voyez s'en venir, vous êtes en avant du delta, tout dehors. Et puis il y en a qui sortent de l'exquise pour le voir s'en venir. Et puis là, il s'en vient majestueux, vous êtes tout énervés de le voir s'en venir. Et puis là, en arrière, le troupeau suit. Puis là, les brebis, il y en a qui manquent la moitié de la laine sur le dos. Puis, ça va sur le côté. L'autre petite brebis, elle a la patte cassée, puis elle a de la misère à suivre en arrière. Puis l'autre brebis, elle a de la misère à voir. Puis il y a une autre brebis qui est obligée de se coller sur elle pour essayer de la conduire. Vous allez dire, il est peut-être majestueux, mais le troupeau fait dur. Vous allez dire, bon. T'as parlé d'un homme qui paraît bien, qui est très majestueux, mais vraiment, le troupeau en arrière ne décrit pas l'homme. Amen. Qu'est-ce qui décrit vraiment l'homme? C'est le troupeau en arrière. Amen. Des fois, on voit des églises où les gens, tu rentres là, sont tous dans la pauvreté, sont tous abattus. J'ai déjà été dans des endroits, j'ai dit, mon Dieu Seigneur. Ça n'a pas de bon sens comment le monde sont maganés. Ça décrit le berger. OK? Si la parole de Dieu nous dit, puis Jésus dit lui-même, « Je suis le bon berger », ben tu peux t'attendre qu'en arrière, le troupeau est pansé, il est guéri, il est pris soin, puis s'il y en a une qui s'égare, c'est pas long qu'il survive puis qu'il la ramène. Voyez-vous, son bâton était fait comme ça. Et puis la parole de Dieu nous dit, on va aller dans le psaume 23, parce que c'est exactement ce qu'est l'Éternel et son Fils, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont le même. Amen. Dans le psaume 23, ça dit, « L'Éternel est mon berger, puis je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. » Dieu, il ne te conduit pas dans des lieux arides, dans des terres pleines de roches, puis là, tu es obligé de errer pendant 2 ans de temps avant de venir à bout de trouver un peu d'herbe. Non. Quand l'Éternel consacre, il va toujours te conduire dans des verts pâturages. Il veut qu'on mange bien, qu'on soit bien nourri. Il me dirige près des eaux paisibles. Des fois, les gens vont dire, oh, cette grosse épreuve-là m'est arrivée, mais c'est Dieu qui voulait me montrer quelque chose. C'est faux! Jamais! Parce que, voyez-vous, les brebis, c'est fragile. Ça l'entend des bruits, puis, ah, les petites brebis. Puis Dieu conduit ses brebis toujours dans des endroits paisibles et non pas des endroits de malheur. Toujours. Fait que quand il y a des épreuves qui s'élèvent, c'est pas Dieu. On doit toujours se souvenir que Dieu est bon. Amen. S'il conduit en quelque part, c'est près des eaux paisibles. Il veut toujours que l'on demeure en paix. Puis il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Autrement dit, dans tout ce qui est juste. Dieu est juste. Jésus s'en remettait au juste juge. Puis il savait que le prix qu'il paierait serait suffisant pour toute personne sur la terre entière, des billions de personnes. Mais le prix qu'il a payé serait suffisant pour que toute personne qui ose s'approcher de lui puisse avoir la même chose que les autres. Amen. À cause de son nom. Puis il dit, si je marche dans la vallée, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, autrement dit, s'il s'élève de quoi dans ma vie, il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si Dieu, l'apôtre Paul, il disait différemment, il disait, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Amen. Faut savoir que Dieu est avec nous. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit dans Actes 10, 38, voyez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. Mais c'est la même chose pour moi. L'Éternel est mon berger, puis même s'il s'élèverait des choses dans ma vie, je ne crains aucun mal parce que Dieu y est avec moi. Si Dieu est pour moi, j'ai plus rien à craindre. Et il dit, sa houlette et son bâton me rassurent. Voyez-vous, il parle de la parole et de l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, sa houlette était comme ça, c'est l'esprit. Quand la petite brebis s'égarait, il allait juste la chercher par le cou puis il la ramenait comme ça. On est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Il nous ramène. Non. Va pas là. Amener à l'intérieur de nous, ça dit, fais donc pas ça. Fais donc ceci. Va pas par là. Non, ça, c'est pas bon pour toi. Reviens. Ça, c'est sa houlette. Il vient nous chercher. Puis son bâton, c'est sa parole. La parole, elle nous corrige. Des fois, on fait quelque chose de pas correct, puis la parole nous parle. Un petit coup de bâton sur les fesses. Ouh! Aouh! Oui, c'est vrai. Je dois arrêter de chialer. Ouh, ouh, ouh! Oh, c'est vrai. Il faut que je donne. Ouh, ouh, ouh! Ça fait mal. Mais sa houlette et son bâton nous rassurent continuellement. Avec le... Il ne fessait pas à verger sur les brebis. Il donnait un petit coup. Tout, 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 pas par là. Amen. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il va me conduire par son esprit puis par sa parole. Amen. Quand je regarde à la parole de Dieu, puis je vois comment Dieu m'a tant aimé, moi qui étais une brebis errante à la merci des animaux des champs, qui disait tantôt qu'il veut dire le diable, qui est l'animal qui s'est glissé dans le champ. Et puis, quand il voyait que j'étais à la merci, Dieu m'a tant aimé qu'il a dit, elle a besoin d'un berger. J'étais une brebis errante, mais maintenant, je suis retournée vers le berger et le gardien de mon âme. Et quelle sorte de berger, pardon? Ah, OK, non, je pensais qu'il restait 5 minutes. Okay. Quelle sorte de berger? Le berger qui va me faire paître. Amen. Le berger qui va me fortifier quand je suis faible, qui va me guérir quand je suis malade, qui va panser mes blessures, qui va me ramener si je m'égare, qui va aller me chercher même. Amen. Dieu n'arrête jamais avec nous. C'est le bon berger. Amen. Alors quand je m'attends de voir le berger, je m'attends de voir le troupeau qui accompagne le berger et le troupeau est pris soin. Parce que c'est un bon berger. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et si on continue de lire, ça dit qu'il m'aime. Il dresse une table devant mes adversaires. Amen. Ça veut dire que devant mes adversaires, devant ceux qui sont contre moi, devant l'ennemi, il y a une table. Savez-vous c'est quoi la table? C'est la table de la communion. Amen. C'est Jésus qui a donné sa vie. Puis il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous boirez cette coupe et que vous mangerez ce pain, vous annoncerez la mort que j'ai eue pour vous, pour que vous ayez la vie en abondance. Fait que quand l'ennemi veut venir contre toi, tu dis, non, il y a une table ici qui nous sépare. Puis la table, c'est qu'est-ce que Jésus a fait à la croix lorsqu'il a versé son sang puis a donné sa vie pour moi. Tu peux pas m'attaquer parce que moi, j'ai un berger qui a pris soin de moi et je ne suis plus une brebis errante. Je suis la fille d'un berger. Je suis la brebis d'un berger. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va juste terminer avec Hébreux 13, 20. Hébreux 13, 20. Ici, la parole de Dieu nous dit, et lorsqu'il parle, il dit, « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis. » Comment qu'il a fait ça? « Par le sang d'une alliance éternelle. » Voyez-vous, c'est l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, une alliance, il y a toujours du sang versé. Jésus a versé son sang, il a fait une nouvelle alliance pour nous. Et il dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts, qui a ressuscité, amen, le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, il dit c'est qui? Il dit, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu fait en moi ce qui lui est agréable. Et une chose que je suis certaine, c'est que Dieu ne fait que de bonnes choses. Voyez-vous, Jésus, il n'a pas dit « Je suis le berger ». Il dit « Je suis le bon berger ». Amen. Dieu ne change pas. Il n'y a pas de variation en lui. Quand il a créé la terre, tout ce qu'il a fait, ce qu'il est bon. Quand l'homme a péché et a fait rentrer la maladie, la mort, Dieu a envoyé encore quelque chose de bon, parce qu'il ne fait que de bonnes choses. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre même que toute bonne chose descend du Père des Lumières qui est dans les cieux. Amen. Fait que ce qu'il a fait de bon pour nous, c'est qu'il ne nous a pas laissé errer comme ça un troupeau sans berger. Pourquoi je sais que c'est la volonté de Dieu que je sois en santé? Parce qu'il m'a envoyé le bon berger. Le bon berger, il a donné sa vie pour moi, pour que je vive. Il a dit, afin que les brebis aient la vie, puis qu'elle l'ait en abondance. Amen. La maladie, ce n'est pas la vie. La mort, ce n'est pas la vie. Amen. Le monde dit, vous allez mourir de quoi? Premièrement, on ne meurt pas. On passe de la vie à la vie éternelle. Amen. On mourra de vieillesse. Vous regarderez dans la parole de Dieu comment les hommes de Dieu, ça dit, ils ont été rassasiés de jour. Après ça, ils sont allés voir leur père. Leur père et le père Abraham, Isaac, Jacob, ils allaient être enterrés puis allaient rejoindre leur père. Amen. On peut mourir rassasié de vieillesse. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On va se lever debout. Voyez-vous, Ce matin, j'avais à cœur de qu'on prie ensemble, amen. Je sais qu'il y a des requêtes aussi. Et que si quelqu'un était ici ce matin parce que vous vouliez absolument avoir l'imposition des mains, venez ici en avant, puis on va le faire. Mais je voulais qu'on prie pour tous ceux, j'avais vraiment ça à cœur, tous ceux qui sont en dépression, qui subissent des pressions, des oppressions, puis qui sont toujours découragés, puis ont toujours le nuage noir au-dessus de leur tête, amen, et qui sont en dépression. Fait qu'on va prier pour eux, soit que c'est des membres de nos familles, ou soit que c'est dans la ville ici, qu'il y a des gens qui seraient peut-être prêts à passer à l'acte du suicide tellement qu'ils sont découragés. Fait qu'on va lier ça ce matin, puis on va juste élever des prières envers les gens sur la terre. Amen. Alléluia. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, avec l'autorité que Jésus nous a donnée en son nom, on prend autorité ce matin sur tous les esprits de pression, d'oppression, de découragement, de venir décevoir, amener des nuages de noirceur. Dans le nom de Jésus, on commande à ces choses de cesser. Oui, Père éternel, et s'il y a quelqu'un en quelque part, Seigneur, qui broyait tellement du noir, on te demande d'amener de la lumière dans sa vie, Seigneur. De placer des gens qui vont éclairer ces gens-là. Et on lit ces nuages de noirceur que Satan veut créer pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Dans le nom de Jésus, Père éternel, on te demande de venir au secours de leur faiblesse, Seigneur. On prie pour eux, Seigneur, afin qu'ils soient libérés du filet de la dépression, de l'oppression, même du suicide, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce matin que vous vouliez vous faire imposer les mains pour la guérison, ou vous avez quelqu'un que vous connaissez, que vous allez voir prochainement. On peut prier sur des linges aussi. À ce moment-là, faites juste le dire en avant, mais on va prier pour cela, puis après ça, on priera pour les requêtes des prières. Ils vont juste chanter, et puis s'il n'y a pas besoin de prière de guérison, à ce moment-là, on passera aux requêtes de prière. Amen. Hallelujah.